Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au chapitre 18e de saint Matthieu, et dans ce chapitre 18e, un certain nombre d'éléments de formation que le Seigneur donne aux disciples, juste avant cette importance de la correction fraternelle que nous allons détailler un peu dans notre méditation, il y avait la parabole de la brebis perdue. Vous vous souvenez de cette parabole, hein, où quelqu'un qui a 99 brebis, 100 brebis, 99 qui ne se perdent pas, mais il y en a une qui se perd, n'abandonne-t-il pas les 99 autres pour aller rechercher la brebis perdue? C'est dans ce contexte qu'il faut écouter cette invitation à la correction fraternelle, faire que aucun des membres du troupeau que nous sommes, parce que le Seigneur s'adresse à ses disciples, il les forme, aucun membre du troupeau que nous formons ne s'éloigne du Seigneur et court à sa perte. Ça veut dire plusieurs choses. C'est vraiment se sentir responsable les uns des autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort, cette dimension de solidarité entre nous. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire de vifs reproches seul à seul. La correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est rare que le sujet soit abordé dans les méditations, dans les homélies, à moins que l'Évangile nous y invite, comme c'est le cas aujourd'hui. La correction fraternelle, je crois que c'est quelque chose qui se pratique assez peu. Ça se pratique, je sais que dans notre communauté, ça peut se pratiquer, je suis religieux. Mais, et donc, quand on a la rencontre avec le prieur de l'abbaye, eh bien, on lui pose la question, il nous dit un certain nombre d'observations. Pourquoi c'est important? C'est important parce que nous avons tous une sorte d'angle mort dans notre manière de nous comporter. Il y a des choses qu'on ne voit pas, que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas. Une sorte de point aveugle, si vous voulez. Et pour nous, ça ne pose pas de difficulté, mais pour la personne qui est à côté, le frère qui ou la soeur qui est à côté, c'est aussi une difficulté, ça peut être une difficulté. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui a un regard sur nous, sur notre manière de vivre, ce regard qui est à la fois bienveillant, mais à la fois c'est un regard de vérité. Ça peut être tout à fait le regard entre conjoints, à l'intérieur même d'une même famille. Est-ce qu'on se laisse interpeller par les réflexions de ses enfants, de sa famille, concernant notre comportement, de possibles addictions, de possibles fuites dans le téléphone, par exemple. On est toujours dans notre téléphone, même à table, même dans les moments où ce serait important de prendre des nouvelles des uns et des autres. Mais voilà, est-ce qu'on se laisse interpeller par ça? Je trouve que c'est quelque chose de beau, parce que cette correction fraternelle, au fond, c'est aussi notre lieu de vérification de l'appartenance au Seigneur. Nous vérifions à travers ça que nous sommes vraiment dans une dimension de conversion. Et saint Matthieu, dans ce chapitre 18e, donne des pistes précisément tout au long du chapitre de conversion. Est-ce que j'accepte, au fond, de me laisser interpeller sur ma conduite, ou est-ce qu'au contraire, je reste un peu buté, ou je me vexe, ou je... Bon, et moi, je me souviens comme ça d'un passage un peu amusant, c'est que monsieur vient pour se confesser, etc. Il dit, mais mon père, je ne sais pas quoi dire en confession. Mais écoutez, allez voir votre épouse. Et là, le lendemain, il revient avec une liste formidable, voilà, de choses à dire. Au cas où, et ce n'était pas un mauvais homme, mais c'était juste un homme. Donc du coup, il avait aussi des défauts. Donc, je trouve ça intéressant d'être... On est soucieux du destin de l'autre. C'est ça l'Église, on est soucieux du destin des uns des autres. Hein, et donc soucieux de, on porte le destin de l'autre aussi en nous-mêmes, et a fortiori même dans une famille, dans un couple, dans une famille, voilà, ce destin, c'est un destin commun, de même dans une communauté, c'est un destin commun de vie en commun, du partage de toute la vie, c'est ça le sacrement de mariage. Donc je trouve ça intéressant de se questionner, est-ce qu'on se laisse atteindre peut-être par une vision trop individualiste, comme c'est le cas dans nos société moderne, où on est très tourné vers nous-mêmes, on ne veut absolument pas interférer dans la vie de l'autre, quitte à le laisser aller à sa perte. Hein, et c'est ce que dit Jésus, fais-lui des reproches seul à seul, voilà, et tu auras gagné ton frère. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est du souci que nous portons, surtout par rapport au prochain proche, Vous voyez, des personnes, il ne s'agit pas d'interpeller à tout va sans discernement. Ça n'aurait aucun sens, ce serait contre-productif. Mais le prochain proche, celui avec qui nous partageons la vie, celui que nous côtoyons, et peut-être même, alors dans le monde professionnel c'est un peu différent, mais ça serait intéressant de dire, voilà, si on est témoin de manière d'agir de façon répétée, on passe quand même une grande partie de notre temps avec, vous passez une grande partie de votre temps avec vos collègues, plus qu'avec votre conjoint, d'une certaine manière. Le temps éveillé, on passe là. Enfin, se dire, est-ce que je me sens responsable aussi du destin de l'autre, si je vois l'autre s'enfermer, soit dans des addictions, soit dans une sorte de repli sur lui-même, etc. Est-ce que je suis attentif? Je monte un intérêt pour lui. Hein, et parce que c'est la correction fraternelle, c'est un intérêt, c'est pas juste soulager, ben j'en peux plus, et j'explose, et je dis à l'autre ces quatre vérités. Non, c'est que, et je me souviens bien mon noviciat, le maître des novices nous disait, il y a quelque chose qui te dérange dans le frère, si tu veux lui dire, tu lui diras que uniquement quand ça ne te dérangera plus, que même s'il continue, ça te va, et que tu es paisible avec ça, là tu pourras lui dire. Mais si tu as un agacement, forcément, un agacement, une sorte de manière de vivre, voilà, une sorte de colère qui m'habite, ça ne va rien dire. Apaise-toi. Et pose-toi la question, le frère qui a ce comportement, qu'est-ce qu'il vient toucher en toi? Qu'est-ce qu'il vient toucher en toi? Donc, c'est intéressant, il y a des conditions à la correction fraternelle. Justement, cette condition, c'est la charité fraternelle. C'est l'amour, le souci de l'autre, pas juste passer ses énervements sur l'autre. Je pense que c'est important. Ensuite, appelle deux ou trois personnes comme témoins, et puis lis-le à l'assemblée de l'Église et considère-le comme un païen et un publicain. Voilà, c'est une manière forte de parler du Seigneur. Mais c'est intéressant de voir comment le Seigneur a traité les païens et les publicains. Surtout Matthieu qui était un publicain. Le publicain, vous vous rappelez, c'est un collabo, c'est un collecteur d'impôts qui finance l'occupation romaine. Voilà, donc il a laissé du temps à l'autre. Je pense qu'il y a une patience dans la correction fraternelle, dans la demande de changement. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour nous faire changer de comportement, sinon ce serait tellement évident. De voir comment le Seigneur a patienté avec Lévi, qui est devenu Matthieu, il a patienté avec Zachée, à qui il a fait un reproche. Voilà, mais ce reproche-là, voilà, ça l'a touché, Zachée. Ça vient normal, je lui rendrai quatre fois de ce que j'ai pris, etc. Et c'est peut-être pas tout de suite qu'il s'est mis à la suite du Seigneur. On ne dit pas rien de la présence de Zachée dans le reste de l'Évangile, hormis la rencontre avec le Seigneur. Hein, donc, est-ce qu'il l'a suivi jusqu'à la croix, ou est-ce qu'il était dans tel ou tel épisode de sa vie, on ne le sait pas, rien n'est dit. Donc, je trouve ça intéressant de dire, oui, traite-le comme un païen, un publicain, mais le Seigneur, ce qui le touche souvent le plus, c'est les attitudes du païen et du publicain, parce qu'eux se laissent interpeller. Et donc, nous-mêmes, quand nous sommes témoins, justement, de quelqu'un qui peut-être a moins reçu que nous, parce que nous avons reçu beaucoup, pour la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés depuis le berceau, nous avons reçu le catéchisme, la communion, la confirmation, etc. Voilà, nous avons baigné dans un climat de foi pour la grande majorité d'entre nous. Nous avons reçu beaucoup, et ça nous oblige beaucoup. Mais d'autres qui n'ont rien reçu, qui n'ont pas reçu ce que nous avons reçu. Les païens et les publicains de notre temps, des gens qui n'ont pas du tout d'éducation chrétienne, qui n'ont pas de valeur au niveau moral, ils sont dans une grande confusion, ils questionnent le monde, et les questions du monde, voilà, on sait très bien où ça va, et ça nous emmène dans le mur, alors c'est leur seule boussole. Et donc je me dis, c'est important d'avoir cette patience, d'être attentif à ceux qui sont loin, qui peut-être ont des comportements désordonnés, ça peut arriver, hein, mais qui ne savent. Alors c'est bien de les enseigner, c'est bien de les informer, hein, que telle ou telle attitude va contre la dignité de la personne humaine, va contre la conscience morale. Hein, donc je pense que c'est je trouve que c'est pour nous, c'est une invitation, cet épisode de Matthieu au chapitre 18e. En sachant, ce que dit Matthieu, ce que vous aurez lié ce que dit Jésus dans Matthieu, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nos actes retentissent dans l'éternité. C'est pour ça qu'on parle. Le déficit de parole est une misère. C'est une misère. On laisse seul l'autre avec son combat. On ne vient pas au secours avec une parole. Une parole à la fois qui corrige, mais elle n'a pas une parole d'espérance. Et donc, si nos actes retentissent dans l'éternité, c'est important que notre éternité se joue ici et maintenant. Hein. Et donc, comme disait la petite Thérèse, pour aimer, c'est-à-dire pour vivre l'éternité, je n'ai qu'aujourd'hui. Et c'est d'aujourd'hui en aujourd'hui qu'on se prépare au royaume de Dieu, donc on se convertit. Donc, c'est-à-dire, c'est intéressant. Le fait de donner une parole de correction fraternelle a à voir avec le salut de l'autre. Et ça nous questionne, nous aussi, où est-ce qu'on en est de notre propre salut et du salut du prochain. C'est vrai que le salut, c'est pas une notion qui est fréquemment employée, même nos contemporains, vous leur posez de quoi vous avez besoin d'être sauvé. On a besoin d'être sauvé, d'avoir un jour férié de moins ou une retenue sur notre salaire, si on a besoin d'être sauvé de ça. Mais parler de la vie éternelle, on voit bien que chez nos contemporains, ce n'est pas d'actualité. Eh bien, pour nous, on renvoie à ça. Et on dit, pour nous, la vie éternelle, c'est important. Parce que vivre avec la vie éternelle comme horizon, comme axe, ça change une vie. Ça change une vie. Mettre un enfant au monde pour la vie éternelle, c'est pas la même chose que mettre un enfant au monde pour la fosse. Pas du tout pareil. Alors bon, les accouchements, techniquement, se passent pareil, mais la manière d'élever un enfant quand on a la vie éternelle en perspective, c'est on a un regard de foi. On est en train de préparer aussi son âme à contempler le Seigneur. Vous voyez, je pense que c'est important, ça, d'être attentif, justement, de voir que la vie éternelle fait qu'on s'engage différemment. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, on va demander au Seigneur cette grâce particulière de la prière, ce que vous aurez demandé quoi, à mon Père, vous l'obtiendrez. Bien, demandons d'être moins individualiste, demandons d'être plus, avec discernement, concerné par le salut de l'autre, par la conduite de l'autre, par sa manière aussi d'évoluer, et puis aussi concerné par quand il fait des progrès, de l'encourager, etc. Demandons cette grâce particulière au Seigneur en ce jour où nous écoutons cette parole sur la correction fraternelle. Amen.